Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'or des curieux, une émission écrite et présentée par Robert Giraud. Et pour aujourd'hui, l'or des curieux s'en va flâner du côté de chez les peintres. Musique et peinture donc. Mais émission sans prétention, ce sera juste un effleurement et nous écouterons essentiellement de la musique. Je reviendrai ultérieurement sur ce sujet tant il est vaste et à l'origine de tellement de chefs-d'œuvre. Rassurez-vous donc, tôt ou tard, nous ne serons pas sans tâter à nouveau du pinceau dans l'émission. Ravi de vous retrouver, vous, ainsi que Simon Martin, à la prise de son. Des rapports, musique, peinture, il y aurait beaucoup à dire, mais sans doute dans un cadre plus large que cette simple émission de radio. Il m'a cependant paru intéressant de tenter une approche même furtive de la chose, une ébauche, intéressante d'aller faire quelques pas dans ces secteurs où se croisent un domaine et l'autre, musique et peinture, musique évoquant des œuvres peintes, des figures de peintres. Il y en eut plus qu'on ne se le figure, si l'on est figuratif, ou qu'on ne se l'imagine, si l'on n'est pas figuratif. Et cela depuis très longtemps. Je limiterai cette première promenade au XXe siècle, partant de celles et ceux qui ont balisé, annoncé le siècle présent, qui est enfant de Picasso, de Paul Klee, Kandinsky, tout autant qu'il l'est de Schoenberg, Messiaen, Dutilleux. Mais par où commencer dans l'histoire fleuve de ces croisements? La chronologie, précieuse sans doute, mais présentant l'écueil d'un trop de sérieux et d'un possible ennui. Alors tant pis, j'ouvre le livre à n'importe quelle page, je ferme les yeux et je pose le doigt au hasard sur la page. Et voyons un peu qui vient là. Karl Ablet et Henri Matisse, pour ce qui est plus une fresque, un retable jazz qu'un simple thème. Matisse aimait tellement le jazz que rien n'est plus naturel que de le voir célébré par l'une des plus belles lumières du jazz. Miss Karl Ablet est au piano ici, en compagnie d'Andy Shepard au sax et de Steve Swallow à la basse. Karl Ablet Trio, les trois lagons d'après Henri Matisse. Miro, le peintre, Juan Miro. Miro qui m'évoque beaucoup cette chanson récente de Bob Dylan, « I contain multitudes », « Je contiens des multitudes ». Miro qui s'essaya à toutes ou presque les disciplines touchant au pictural, peinture bien sûr, vitrail, sculpture, gravure, fresque, céramique. Miro, curieux de matière, Miro artiste et artisan, aimant l'action, le travail de la main, le travail tout court, le contact charnel avec la matière. Miro était en mouvement, toujours, comme les artistes de l'Antique, pour qui voyager, c'était apprendre. De Miro, j'aime le trait franc, presque rieur, simple, même si le mot « simple » est un brin trompeur ici. Tout est-il vraiment si simple que cela? Mais Miro, c'était beau comme un arbre, beau comme la voile d'un bateau sur le fil de la mer, beau d'une beauté primale, d'une beauté pleine. Ça s'entortillait, ça s'emberlificotait, ça se bougeait en tous sens comme une créature vivante. Chez beaucoup de peintres, le déroulement de la vie est un voyage vers l'épure. Et Juan Miro, de virtuose des formes et couleurs qu'il était au départ, se fit maître de simplicité, de dénuement presque. À l'autre bout du monde, Toru Takemitsu, compositeur autodidacte. Il devait beaucoup de sa science de musicien à l'observation de la nature et à une réceptivité tout à fait particulière au monde du vivant, du visible. Perméable à toutes les formes d'art, il avait initié des rencontres, des rapprochements, puis des œuvres communes avec des cinéastes, des peintres, sculpteurs, danseurs. Par ailleurs, il est à ma connaissance le seul musicien à avoir jamais sollicité l'intervention d'un designer pour finaliser l'esthétique de ses partitions, dans lesquelles tant les couleurs que les formes ont un rôle dans la transmission de l'œuvre à ses exécutants. Roberto Munari, le designer italien, sera d'ailleurs le dédicataire du fameux Munari by Munari, pièce immense pour le piano de Takemitsu. Et Takemitsu était très réceptif à la peinture de Miro, à son côté calligraphe, à son trait, à sa façon de déposer la couleur. De certaines lignes mélodiques de Takemitsu, on pourrait dire qu'elles sont des traits, et suivre leur tracé comme on le ferait d'un trait à l'encre. Sa musique est très physique, elle étreint, elle enserre, elle palpite. Maintes fois, une émotion picturale le conduira à écrire une musique. Ainsi, il célébrera Odilon Redon, Paul Klee, souvent. Paul Klee qui sera son inspiration, par exemple, pour l'écriture d'une pièce de guitare fantastique qui s'appelle Equinox et de ses fameux folios pour guitare seule. Ou encore Paul Delvaux, l'immense peintre belge, qui se verra dédier le sublime « To the Edge of Dream » pour guitare et orchestre. Et Juan Miro, nous revenons à lui, sera le dédicataire et l'inspirateur de « Vers l'arc-en-ciel », chef-d'œuvre absolu, un diamant pur. Le London Sinfonietta est ici aux mains d'Esa-Pekka Salonen et la guitare soliste est tenue par celui qui est aujourd'hui en chair, là où siégeaient avant lui André Segovia et Julian Bream, guitaristes de l'Olympe donc, j'ai nommé John Williams. Alors suivons-les vers l'arc-en-ciel.
Thank you.
Takemitsu, encore et toujours, pour célébrer l'aube de la peinture, à savoir le calligraphe et son geste. Ici, Takemitsu se fait calligraphe et ambidextre, menant comme deux traits simultanément, un pinceau dans chaque main. Utilisant deux quatuors à cordes, il les fait se mouvoir à travers le silence, comme deux pinceaux courant sur une même toile blanche. Comme vous l'entendrez, le geste est ici rendu très sensible, très présent. On pourrait presque suivre la course des pinceaux sur la toile. La scène se déroule sous nos yeux, devant nous, le calligraphe est là, et rien ne nous échapperait du moindre de ses gestes. Nous le suivons par la grâce d'un son devenu lui-même calligraphe. Le son calligraphe 1, le son calligraphe 3, Toru Takemitsu. Thank you. les couleurs sont tout l'univers de celle ou de celui qui peint. Et un musicien a plus particulièrement travaillé sur les couleurs. Il s'agit de Miles Davis, lui-même peintre et dessinateur, dans un CD intitulé « Aura ». C'est un CD du Miles Davis tardif, de sa presque fin de vie, je crois qu'il est mort 5 ou 6 ans plus tard. « Aura » donc, un peu le pendant musical du traité des couleurs qu'écrivit Goethe, excepté que jaillissant hors du plat de la feuille, le dit traité se met à bondir en tous sens et à prendre de sacrées belles couleurs. On pourrait plutôt dire qu'il donne corps musicalement aux couleurs. Jaune, orange, violet, rouge, vert, bleu, rouge électrique, indigo. En ouverture de ce CD, il s'aventure au-devant de ce qui est un absolu de la couleur, au-devant d'une pointe limite au-delà duquel il n'est plus aucune couleur, au-devant de la valeur sans doute la plus délicate à traiter pour un musicien, car menant plus sûrement au silence qu'à la musique. Je veux parler de la couleur blanche, couleur plus froide que froide, arctique, et Miles Davis s'en tire un murmure d'incantation, comme un très long souffle tenu. Puis, nous écouterons Baptiste Trottignon dans une pièce intitulée « Rouge », un rouge semblant donner force et netteté à sa pensée musicale, et le porter au-devant de ce qui pourrait être une sorte d'inferno pour lui. Vous le verrez, ou plutôt vous l'entendrez, à un moment, la musique se déroute. Survient alors une espèce de crise. Baptiste Trottignon, en grand musicien qu'il est, nous fait alors grâce de tout épanchement et conduit tant son piano que sa main avec humanité, sans se répandre, sans chercher à nous embuer le plastron à vil prix. Miles Davis, White, puis Baptiste Trottignon, Rouge. L'art du peintre, c'est aussi l'impromptu, l'immédiat et le constant retour à ce qui est la base de son travail. Le dessin, l'esquisse, le croquis, toutes choses correspondant pour un musicien à la forme brève et bien sûr à l'improvisation. Et ce rapprochement à l'art du croquis, du dessin sur le vif, mené d'une main preste, Eric Satie l'a initié en musique à travers un carnet d'esquisses et de croquis, évoquant tout à fait ces carnets de croquis des peintres au travail. Croquis toujours incisifs, pleins de caractère, de vitalité. Je pense ici par exemple au carnet croquis de Paul Klee, qui semblait y travailler la rupture, les oppositions, les nuances de caractère négociées à une vitesse folle d'un croquis à l'autre, comme s'il s'agissait de fuir l'éventualité même d'une possible redite. Paul Klee était un prodigieux dessinateur. Alors nous allons écouter Eric Satie depuis les pentes montmartroises, qui passait par là avec son carnet d'esquisses et de croquis sous le bras. Et à lui, l'or des curieux ne refusera jamais le gîte et le couvert. Quelques extraits seulement, malheureusement, de ce carnet d'esquisses, mais interprété par Aldo Ciccolini, avec, au passage, l'esquisse du grand singe que je dédie avec toute mon admiration à la mémoire de Jean Rochefort. Et je laisse au maestro Ciccolini le soin de vous reconduire sur le pas, et qu'il ferait mieux qu'Aldo Ciccolini. Rendez-vous en 15. De bonnes fêtes de Noël à vous, ainsi qu'à toutes celles et ceux que vous aimez. À très bientôt.